France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
La prison, je dis, on la vit à la dure, plus dure que les hommes. Vu que c'est une société macho, pour moi, les hommes, ils sont beaucoup plus privilégiés que les femmes.
Les femmes étant moins nombreuses, mais également étant souvent placées à côté de détention masculine, elles ont beaucoup moins accès aux activités proposées aux hommes, ou alors elles sont carrément confinées dans leur quartier.
L'établissement s'est engagé à essayer de développer des activités mixtes. C'est important parce qu'en fait, la prison ne doit pas être un milieu qui se différencie trop de ce qu'on peut rencontrer à l'extérieur.
Égalité professionnelle, prévention des violences sexistes et sexuelles, lutte contre les stéréotypes de genre, l'égalité entre les hommes et les femmes ne doit-elle pas s'appliquer partout, y compris en prison ? Sur le papier, aucune différence de traitement en fonction du sexe des détenus. Et tous et toutes subissent les maux bien connus de la prison. Surpopulation, bâtiments vétustes, manque d'hygiène, difficulté d'accès aux soins. Mais les femmes représentent moins de 4% de la population carcérale, ce qui fait qu'elles doivent souvent s'adapter à un cadre prévu avant tout pour les hommes. En France, deux prisons seulement sont spécifiquement réservées aux femmes, le centre pénitentiaire de Rennes et la maison d'arrêt de Versailles. Dans les autres établissements, les femmes se voient réserver des quartiers dans des prisons conçues pour les hommes. Et comme les détenus des deux sexes ne sont pas censés se croiser, les femmes ont plus difficilement accès à la formation, aux ateliers, voire aux services médicaux. La loi prévoit tout de même des exceptions à la non-mixité, exceptions dont se sont emparés certains établissements ces dernières années pour proposer aux détenus des activités communes. Ces initiatives peuvent-elles favoriser un meilleur respect des droits des femmes détenues ? Les femmes en prison, en finir avec la double peine, c'est un reportage signé Laura Dulieu. Invitée de ce grand reportage, Colline Cardier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8. Vous avez beaucoup travaillé sur la déviance des femmes et le genre du contrôle social et vous avez notamment enquêté en prison. Avec vous, nous allons d'abord écouter le reportage de Laura Dulieu. Laura, vous êtes allée dans la nouvelle prison des Baumettes à Marseille.
Exactement, les Baumettes, maintenant c'est une prison toute neuve. Vous avez peut-être déjà vu des images atroces des anciennes Baumettes complètement délabrées avec des rats, des cafards, des détenus et le personnel qui vivait et travaillait dans des conditions abominables. Désormais, les nouvelles Baumettes ont ouvert depuis 3 ans et tout est neuf. Les anciens bâtiments seront détruits normalement en 2021. Donc c'est important de savoir que je me suis rendue dans un établissement où quand même la plupart des facteurs sont réunis pour que les conditions de détention s'améliorent. Et notamment pour les femmes. Voilà, donc l'idée c'était d'aller voir comment ça se passait dans un endroit qui est neuf et où beaucoup de mesures ont été prises pour améliorer la vie en détention. Mais il faut garder à l'esprit qu'on ne peut pas généraliser cette situation à l'échelle de toute la France et de tous les établissements pénitentiaires.
Nous partons donc pour Marseille et nous commençons la visite du centre pénitentiaire par le quartier des mineurs.
À l'aide des documents, ça peut préciser la durée d'action d'un vaccin qui est spécifique d'un type de micro-organisme. Pourquoi il faut se vacciner tous les ans contre la grippe si l'action est grave ?
Parce que sinon, au cas où s'il y a
des nouveaux trucs dans la grippe, quand on est hop, et du coup.
C'est la rentrée pour tout le monde en ce lundi matin. Y compris pour Chérine et Asia qui retrouvent la salle de classe après des mois sans école ni activité. Sauf que cette salle de classe, c'est celle du quartier femmes mineures des Baumettes à Marseille. Et du propre aveu de Chérine, une femme en détention, c'est très différent d'un homme.
Je pense pas pareil, c'est trop banal les hommes.
Pourquoi ce serait différent ?
Je sais pas m'exprimer. Donc
c'est l'image que ça véhicule ?
Ouais.
Une femme, ça doit pas être en prison ?
Non, pas dans ce sens-là. Enfin, ouais, déjà, c'est mal vu. Et dans le sens où, je sais pas, genre c'est plus. Tu sais, c'est des mères de famille, c'est des femmes, c'est des sœurs, c'est genre c'est des femmes quoi.
Oui, mais ça c'est. Peut-être que j'interprète, hein, je sais pas, mais c'est. Tu parles de l'image qu'a la société. C'est banal. Ouais, un mec qui va en prison, c'est banal. Une femme, c'est. Ça questionne plus.
Quand je vais sortir, je vais dire que je t'ai à Cancun. Je vais pas dire que je suis au bon, maître. Non, c'est différent. Ça évoluera jamais trop. Genre, la femme sera toujours là et l'homme sera toujours là. Ça sera toujours plus choquant une femme qui est en prison qu'un homme qui est en prison. Ouais, je suis une fille, je tiens. Je suis là au bon, maître. C'est cool.
On peut quitter la salle aussi. Ton carnet de liaison,
il est là. Elles étaient 2033 détenues au 1er juillet 2020, soit 3,5% de la population carcérale. Le quartier femmes des Baumettes, c'est 136 détenues pour 174 places. Et dans ce quartier pour mineurs, elles ne sont actuellement que 4 pour 11 places.
La visite, salle d'activité, voilà.
En plus des 3 heures d'école obligatoires quotidiennes, elle dispose, comme les majeurs, d'une bibliothèque, d'une salle informatique, d'une salle de sport et même d'une salle de coiffure très importante selon les deux surveillantes, Fatim et Annie.
Voilà, c'est pas entre elles. Ça permet de se détendre un peu. D'être un peu une... Voilà, de ne pas oublier qu'on est des femmes, il faut être belle. Si même si on est en prison, il faut être belle. Donc voilà, la beauté, l'hygiène, tout ça, ça compte aussi. Il ne faut pas parce qu'on est en prison qu'on oublie ça, donc il faut que ça se maintienne. Voilà.
Elle a du succès du coup cette salle?
Ah oui, si on est activité, il n'y a personne qui bouge. Ah si vous bougez, il n'y a pas activité coiffée. Ah si, on est tranquille. L'activité, c'est, ouais, ils aiment bien ça, ils aiment bien. Ouais, ils aiment bien tout ce qui est coiffure, esthétique, c'est détente et tout. Et se sentir femme aussi, se sentir femme. Bon,
c'est pas oublié. C'est même les détenues qui sont rentrées un peu masculines, on va dire entre guillemets. Avec le temps et de voir les autres, elles ont pris goût. Hein, je pensais s'il y a tout ça qu'ils ne voulaient pas, ils prennent goût et après le partage, ces moments-là, même le vernis, un peu de maquillage par moment, et ça leur fait du bien. Elles sont dans la demande de ça.
Non, franchement, on est bien
équipé. Honnêtement, c'est un quartier oui, qui est bien complété, bien équipé. On peut travailler dans de bonnes conditions.
Dans des conditions vraiment sereines.
Parce que ça apaise pas mal hein, d'avoir des activités comme ça. Ça évite des tensions qu'il y aurait s'il n'y avait pas tout ça. Donc non, franchement, c'est de bonnes conditions.
En fait, on est polyvalente, on fait tout. Quand on est surveillante, en fait, on fait tout. On est à l'écoute, on est médecin, on est tout ce que vous voulez, psychologue. Parce que le temps qu'on met à écouter les personnes détenues qui ne sont pas bien, qui sont vulnérables, donc les conseils qu'on leur donne et les orientations par rapport aux professionnels, donc ça fait partie de notre mission de surveillance.
On va continuer. Salle de boxe qui est là.
Comme ça, cet après-midi, c'est l'intervenant boxe qui va venir. Donc on a une salle.
Pour Annie, surveiller des hommes et des femmes sur le papier, c'est la même chose. En pratique, il y a des différences.
Quand on a une façon de bosser, que ce soit avec des hommes majeurs ou des femmes majeures, on bosse de la même façon. Voilà. Après, il y a l'échange, c'est dans les propos que l'échange est différent. C'est verbal. Avec l'homme, on va parler différemment qu'avec une femme. Parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes attentes, pas dans les mêmes demandes. Il y a le... voilà. Mais par exemple, je trouve, le peu que j'ai vu chez les femmes majeures, elle va être plus dans le caprice. L'homme va être plus dans la séduction au début, ouais. Selon les profils, en majorité, je parlais, dans le général. Voilà. Donc, notre approche est différente et ça se passe très bien. Une fois qu'on s'est parlé, qu'on arrive à voir à peu près les tempéraments et leur façon de faire, on adapte et ça passe tout seul. Peu importe les profils, nous, on ne regarde pas les situations pénales. Enfin, moi, perso, je m'adapte au tempérament de la personne et pas ce qu'il a fait ou ce qu'il est, ça ne me regarde pas. Je ne suis pas là pour ça, donc c'est selon comme il parle, selon le comportement... qui peut être changeant, ça va être bien le lundi, une mauvaise nouvelle, une mauvaise nuit, le mardi, il va falloir travailler beaucoup plus avec cette personne-là pour la remettre à niveau, on va dire. Voilà.
Et le fait que vous soyez des femmes, est-ce que ça ajoute encore un degré à la construction d'une relation avec elle ?
Elle est énorme, je pense.
Oui.
Oui, je pense que ça y fait beaucoup.
Et oui, car en France, les femmes ne peuvent être surveillées que par des femmes. Concrètement, une femme surveillante peut exercer son métier dans les quartiers hommes et dans les quartiers femmes. En revanche, un homme surveillant n'a pas le droit de se rendre dans un quartier femme, sauf s'il est gradé ou membre de la direction. Une inégalité qui date du 19e siècle et qui est liée à la ségrégation homme-femme en détention. Corinne Rostin est enseignante-chercheure à l'Université Lyon 2 et sociologue spécialiste des questions de genre en prison.
Après la Révolution française, hommes et femmes étaient incarcérés ensemble, y compris d'ailleurs avec des enfants. En 1824, on a commencé à séparer donc les enfants des personnes adultes. Et ce processus, a mis du temps à se mettre en place. Ensuite, entre-temps, on a décidé de différencier les gardiens, c'est-à-dire qu'on a proposé de créer un corps de gardienne en 1839 exactement. Et cette création de gardienne, donc, a posé problème puisqu'on n'arrivait pas à trouver suffisamment de femmes qui acceptaient de ce travail, en dehors souvent des épouses de gardiens. Devant ces problèmes de recrutement, on a choisi donc de faire appel à des religieuses en 1840, et c'est ainsi que les religieuses, ce sont donc les sœurs de Marie-Joseph, se sont installées dans les prisons. Elles ont occupé quasiment tous les postes, c'est-à-dire aussi bien donc les postes bien sûr de gardienne, mais aussi elles faisaient office d'infirmière quand il y avait besoin ou d'assistante sociale. Puis peu à peu, avec la loi de séparation, donc en 1905, les gardiennes civiles ont repris leur place, mais il y a eu souvent maintien de ces religieuses à des postes par contre différenciés, c'est-à-dire elles ne pouvaient plus être surveillantes, mais elles pouvaient être encore infirmières si elles avaient des diplômes ou encore assistante sociale. Ce qui a eu quand même pour effet une certaine moralisation des femmes que n'ont pas connu les hommes.
Et pourquoi les femmes peuvent surveiller les hommes et les hommes ne peuvent pas surveiller les femmes?
Alors, je veux dire, on a cherché à comprendre. Hein, ça fait longtemps qu'on s'interroge sur cette persistance. Il y a beaucoup de résistance, je pense déjà des personnels, mais aussi des personnes détenues. Il y aurait sûrement des explications. On peut voir que si on avait justement fait appel à des femmes pour surveiller les femmes, c'était justement suite à de nombreux viols. Et des cas de grossesse constatés, mais aujourd'hui on peut quand même s'interroger pourquoi des hommes ne pourraient pas travailler dans les mêmes conditions et donc comment ça peut justement évoluer peut-être.
Aux étages Paul D, vous m'avez reçu pour Mélanie Caspar aux US? Oui, je t'ai reçu, est-ce que
tu
prépares et je te les envoie?
Excusez-moi. Oui.
Les hommes sont donc rares en détention chez les femmes. Parmi eux, il y a Jean-Claude Perjois, premier oui. surveillant, chef de poste dans le quartier femmes.
Ouais, ben écoute, elle prend du space fond et elle attend. Ah, ben voilà, elle prend du space. Ça va, il n'y a pas de souci, ça marche. Hein. Allez, tchou. Voilà, ça c'est le petit bobo du quotidien pour les femmes.
Est-ce que votre façon de gérer la détention, de surveiller, de gérer la sécurité, est-ce qu'elle change en fonction de si vous êtes dans un quartier homme ou dans un quartier femme?
Non, non, c'est exactement la même chose. Un détenu reste un détenu. La dangerosité, elle peut être moindre comme grande, mais la sécurité est exactement la même chez les femmes que chez les hommes. Là, il n'y a aucune distinction de fait. Comment dire ça? Elles sont moins demandeuses que les hommes. Voilà. Quand elles demandent d'avoir un chef, c'est parce qu'elles ont un vrai problème. Moi, c'est ce que j'ai remarqué par rapport aux hommes. Les hommes sont des pleurnichants, entre guillemets. Les femmes, elles s'assument, enfin, voilà. Quand elles demandent d'avoir un chef, c'est qu'il y a vraiment un problème. Les femmes sont très demandent beaucoup de communication. Bon, ça, moi, j'arrive à le gérer, je communique beaucoup et tout. Mais c'est vrai que, moi, ce que j'ai remarqué par rapport aux hommes, c'est qu'elles s'occupent, elles assument au moment de leur détention, pas toutes, mais certaines. Mais surtout, c'est qu'elles assument aussi l'extérieur. Il faut qu'elles s'occupent de leur famille, hein, de leurs enfants, de la maison, de tout le quotidien que nous, on peut avoir en étant à l'extérieur. Elles, il faut qu'elles le gèrent à l'intérieur. Et ça, comment ça s'appelle? Elles sont beaucoup demandeuses dans ce sens-là. Chez les hommes, ils s'occupent pas trop. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils s'occupaient beaucoup de l'extérieur, à part certains détenus, mais les femmes sont beaucoup plus à assumer ce qui se passe à l'extérieur. Donc, elles sont très demandeuses sur certains points, quoi. Ça, genre, je veux rencontrer une conseillère d'insertion, parce que je dois faire des demandes pour le logement, les demandes pour l'école, tout ça. Donc il y a beaucoup de communication, c'est vrai qu'on envoie beaucoup de mails et tout. Par rapport aux hommes, j'envoie deux fois plus de mails que chez les hommes, ici, chez les femmes. Hein, justement pour pouvoir communiquer avec les autres services transversaux de la pénitentiaire. On va visiter une cellule.
Quand elles ne sont pas en activité ou en rendez-vous, les détenues occupent leur cellule, neuve et désormais équipée de douches, ce qui n'était pas le cas dans les anciennes baumettes. Mais certaines donnent sur le voisinage. Après les fortes protestations des voisins à cause du bruit l'année dernière, des fenêtres très spéciales ont été installées sur les deux derniers étages du bâtiment.
Voilà.
Désormais, la fenêtre est divisée en deux. Une partie est vitrée avec derrière des barreaux, mais condamnée. Il n'y a pas de poignée. C'est la petite partie à droite que l'on peut ouvrir, mais elle est bouchée par un dispositif censé étouffer les décibels.
Le quatrième, il y a un étage plus haut, donc il y avait vraiment le visu.
Là, et pourtant, il y a un peu de vent dehors, mais là, on ne sent pas du tout le vent, quoi.
Là, maintenant, en plus, ils ont mis quand même l'aération qui fait un peu genre air conditionné, quand même. Qu'il n'y avait pas au début, quand ils ont mis les fenêtres, c'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud, quoi. Tandis que là, maintenant, il y a l'air conditionné. Voilà. Alors, l'hiver, ça va, mais l'été, c'est vrai qu'il fait très chaud. On leur met à disposition, bon, là, il n'y en a pas, mais dans chaque cellule, on aura mis à disposition un ventilateur. Voilà. C'est vrai que, bon, c'est... Alors, quand vous fumez et vous cuisinez dans la même pièce,
C'est pas terrible quand vous n'avez pas de d'aération.
Bonjour.
Depuis, ce dispositif est très critiqué par les détenus.
Les trous ils ont la taille des cigarettes. Il n'y a pas d'oxygène qui rentre dans la cellule. Du moment où on est dans la cellule, on a un manque d'énergie. Moi, l'année dernière, la fenêtre, je ne l'ai pas supportée, je l'ai arrachée, je l'ai enlevée. J'ai fait 20 jours de cachot par rapport à ça. Après, cette année, on m'a fait du chantage en disant que si je ne garde pas la fenêtre, on m'enlève mon travail, c'est-à-dire que je n'ai pas de ressources pour me nourrir ni quoi que ce soit. De toute façon, même avec la fenêtre, on n'arrive pas à faire à manger, on ne fait rien du tout. On est en manque d'énergie. Moi, des fois, ça m'arrive de saigner du nez par rapport à ça. J'ai des crises d'angoisse tout le temps. Moi, dans la cellule, je suis tout le temps angoissée. Je suis une autre personne. Je suis l'ombre de moi-même, au fait, dans ma cellule. Ah, mon bébé, c'est quand que tu sors ?
Fatoumata est en détention depuis plusieurs années. Pour elle, ces fenêtres, installées presque uniquement chez les femmes, sont une inégalité de traitement parmi tant d'autres.
Il n'y a pas d'égalité. Les contrôleurs des prisons, ils sont venus. Quand ils sont venus, c'est à ce moment-là qu'ils ont changé le banc de dépannage des femmes. Parce que moi, quelques semaines avant, j'ai récupéré le banc de dépannage des hommes et j'ai vu qu'ils avaient des chocs à pic, qu'ils avaient des gels douche, qu'ils avaient du shampoing. Nous, vous savez, on a quoi ? On a du savon de Marseille. On est des femmes, on n'a pas de gel douche, on n'a rien du tout sur le banc de dépannage ni sur le banc d'arrivant. Et eux, ils avaient des trucs que voilà, enfin, ils... Pour moi, les hommes, ils sont beaucoup plus privilégiés que les femmes, même par rapport aux activités, au travail. Tout. À chaque fois, ils passent avant, alors que normalement, c'est honneur aux femmes d'abord. Normalement, je sais pas, c'est censé être moins difficile pour une femme. Les femmes, ils sont censés moins souffrir. Ils sont plus fragiles. Ils sont censés être plus fragiles. Mais la prison, je le dis, on la vit à la dure, plus dure que les hommes. Et je vous assure. Même pour la réinsertion, il y a... Là-bas, ils peuvent passer le permis. Nous aussi, on ne peut pas passer le permis. Ils ont plein de choses qu'on n'a pas. Et pourquoi on commence par les hommes d'abord, avant de commencer par les femmes ? Normalement, on est en minorité, c'est plus facile de commencer par nous. Et même, on devrait être privilégiés. Mais non, vu que c'est une société macho, ils commencent par les hommes. Et les hommes, ils sont plus mis en avant, ils sont plus bénéficiaires que nous, ils sont plus importants que nous.
Ce constat, la sociologue Corinne Rostin le dresse aussi de manière globale pour les activités en milieu carcéral.
La situation donc, est inégale du fait de la séparation donc, des détenus selon le sexe. Alors, le fait que les femmes soient incarcérées entre elles et que les hommes soient incarcérés entre eux crée déjà une différence de traitement. Les femmes étant moins nombreuses, mais également étant souvent placées à côté de détentions masculines, elles ont beaucoup moins accès aux activités proposées aux hommes, à la diversité des activités, ou alors sur des créneaux très restreints, ou alors elles sont carrément confinées dans leur quartier et on leur propose finalement peu de choses. Donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale. On leur propose beaucoup moins de places de travail, beaucoup moins d'activités globalement. Et puis quand on leur propose, par exemple, des postes de travail, ils sont beaucoup moins diversifiés là encore. Ils sont vraiment conformes aux stéréotypes de genre. Mais sur ce point, on pourrait dire que c'est la même chose pour les hommes. Donc ça, c'est important.
Les inégalités ne s'arrêtent pas forcément à la détention. Ça concerne aussi la réinsertion. Émilie Lefort est conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation auprès des femmes détenues au Baumettes. Là aussi, les différences sont notables.
Souvent, on dit qu'un dossier de suivi de femmes vaut trois dossiers hommes. Dès le début... Elles sont très demandeuses d'activités, de formation, de permission de sortir, de contact. Elles nous écrivent beaucoup. Elles demandent d'être vraiment accompagnées. Mais le fait qu'elles soient proactives, selon moi, c'est une qualité. Parce que ça signifie aussi qu'elles vont être vraiment actrices de leur projet de réinsertion. Et elles sont volontaires. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'activités qui sont proposées aux femmes en détention, qu'à chaque fois qu'il y a des permissions de sortir, que ce soit culturelles, sportives, elles sont toujours partantes. Les points sur lesquels je pense qu'elles sont discriminées, c'est par exemple qu'il n'y a pas de quartier de semi-liberté pour les femmes ici. Donc au niveau des propositions d'aménagement de peine... Voilà, il peut y avoir le bracelet électronique, la libération conditionnelle, le placement extérieur, mais finalement la semi-liberté, il y a un quartier de semi-liberté ici pour les hommes et pas pour les femmes. Donc les chances peuvent être réduites pour elles. Elles peuvent venir d'autres régions, Donc il y a des femmes qui viennent du sud-ouest de la France, donc de loin, parce qu'il n'y a pas de centre de détention dans ces régions-là. Et donc ça les prive parfois de visites de leurs proches. Et parfois, les projets de sortie sont plus compliqués à construire parce qu'il faut travailler avec des partenaires qu'on ne connaît pas particulièrement, qui ne sont pas à Marseille. Et il faut faire le relais. Là, récemment, j'accompagne une personne qui prépare un projet vers Narbonne. Donc, c'est toujours plus compliqué pour faire les permissions, pour les entretiens avec les partenaires, les structures partenaires à l'extérieur. C'est plus compliqué. Et par exemple, par rapport au projet de sortie, les femmes n'ont pas accès à la structure d'accompagnement à la sortie qui est dédiée aux hommes. Et il y en a plusieurs en France, mais les femmes détenues n'y ont pas accès. Et je trouve que c'est dommage parce que ça sert de réel tremplin vers la sortie.
Au Beaumet, les femmes n'ont en effet pas accès à cette structure d'accompagnement à la sortie. C'est un quartier dédié aux projets professionnels et à la formation. Les hommes peuvent aussi passer l'examen du code de la route et préparer le permis. Or, la loi interdit par principe toute communication entre les détenus hommes et les détenus femmes.
Tout simplement, nous n'avons pas de bâtiment de détention qui permettrait de les isoler sur des secteurs spécifiques.
Yves Feuillerat est le directeur du centre pénitentiaire de Marseille-Beaumet.
Mais vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en place très prochainement, en tout cas y réfléchir, de manière à modifier les locaux et permettre à ce que des femmes puissent intégrer ce type de structure. Sans vouloir faire de... Justement, il ne faut pas faire de sexisme. Je trouve que l'établissement s'est engagé à essayer de développer des activités mixtes hommes-femmes, alors que les textes ne le prévoient pas. Mais on le fait en toute sécurité, notamment pour les ateliers. On voudrait le faire également pour la formation professionnelle. Je pense qu'il faut se rapprocher des conditions que l'on retrouve à l'extérieur et pourquoi pas en détention, justement, développer des activités mixtes. Donc ça, c'est quand même un des axes clés, un des axes majeurs qu'on veut développer au niveau du CP de Marseille.
Pourquoi c'est si important ?
C'est important parce qu'en fait, la prison ne doit pas être un milieu finalement qui se différencie trop de ce qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Et si on veut avoir une approche d'insertion, il faut fatalement se rapprocher des conditions extérieures de vie pour essayer un petit peu de normaliser les choses et d'avoir des échanges.
La mixité, elle existe et elle progresse au Beaumet. Elle est autorisée depuis 2009 à titre exceptionnel pour certaines activités, sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire. C'est ce que dit la loi pénitentiaire. Plusieurs établissements ont franchi le pas, dont les Beaumet, où quelques activités rassemblent désormais hommes et femmes détenus.
Radio Beaumet.
Oh yeah. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Beaumet.
C'est le cas de Radio Beaumet, la radio de la prison mixte depuis 2 ans.
J'ai l'honneur de vous présenter notre invitée, Lisa Rocher, qui va nous présenter son tout dernier album.
Il y a aussi certaines activités culturelles, comme le Media Lab, dont fait partie ce détenu.
On fait le journal de la prison. On se complète. Pourquoi hommes et femmes ? Parce que les idées de chacun, femmes et hommes, on les a mis ensemble parce qu'on n'arrivait pas à se voir. On ne savait pas ce qu'eux faisaient et nous ce qu'on faisait le matin. On était censé faire des tâches le matin, l'après-midi, eux pareil. Et du coup, quand on a sorti la première édition, il y a des filles qui n'étaient pas trop d'accord avec ce qu'on avait fait nous et les garçons pareil. Donc on a demandé si c'était possible de faire mixte. On a accepté. Du coup, on a fait 3 éditions. La première, elle est là, l'ombre de l'actu. La deuxième, on a changé le titre, page d'entrée, on a essayé de faire différent du premier. Et on a sorti une troisième édition qui va sortir dans pas longtemps. Et voilà pourquoi on est là tous ensemble, mélangés.
Qu'est-ce que ça a apporté du côté d'excité ? Ça marche mieux qu'avant ?
Ça marche mieux qu'avant, pourquoi ? Parce qu'on est ensemble, on crée des trucs ensemble et on se met d'accord tout de suite. Comme là, vous avez un croquis. On part de la page de la première page de couverture à la dernière page et on se dispatche un petit peu tout ce dont on va parler dans le journal, quoi, plus ou moins. Et c'est moi personnellement et les filles trouvent ça mieux qu'on soit ensemble. Après, voilà, ça se passe bien, on fait notre job. Ça nous permet de sortir aussi tous les jours, parce que le Media Lab, c'est du lundi au jeudi, tous les après-midi. Il n'y a jamais eu de soucis particuliers, au contraire.
La mixité, c'est aussi naturel et sans encombre à la bibliothèque, gérée par Blandine Schirer.
Ça se passe très très bien. Alors après, effectivement, le moteur pour participer aux activités culturelles, ce n'est pas forcément l'activité en tant que telle, mais puisqu'il y a quand même cette idée de partager des moments avec le sexe opposé, ce qui est pour, à mon sens, normal. Puisque
ça compte beaucoup pour les détenus.
Dans les motivations, je dirais oui et non. Après, on n'est pas dans l'idée de forcément se donner un rencard ou quoi que ce soit, mais oui, c'est important pour eux d'être mélangés puisque ça apporte une autre dynamique. Et au final, ils sont pas moins attentifs à ce qui se passe dans la bibliothèque, mais ça crée une autre ambiance et plus équilibrée, à mon sens. On m'a laissé la possibilité de décider si je voulais faire des activités mixtes ou pas. Donc la plupart du temps, j'encourage des activités mixtes. Après, pour certaines activités comme les ateliers d'écriture, je choisis de pas forcément mélanger parce qu'on est dans des choses plus intimes où le regard de l'autre ici est très important. Donc voilà, je sais pas si c'est pertinent ou pas, mais voilà, je sais que des fois j'oriente un peu plus. Mais là, cette année par exemple, je propose que des activités mixtes parce qu'avec le confinement, etc., je me dis que c'est important de retrouver une sociabilité même à l'échelle de la prison.
L'idée de mélanger hommes et femmes commence donc à faire son chemin. Jean-Claude Perjoie, le chef de poste, lui, est un peu plus réservé.
Moi, je ne suis pas trop pour, quoi. Voilà, quoi. On nous interdit que les détenus se croisent et après, on accepte qu'ils soient en activité mixte. Donc, c'est un peu contradictoire, quoi. Donc, vous voyez. Après, ça reste que... Comment vous dire ça? Les hommes, comme les femmes, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas vu certaines d'hommes et certaines de femmes. Donc moi, pour moi, il y a un risque, hein, quoi. Il y a un risque que peut-être qu'il se passe quelque chose, un truc comme ça. Donc, bon, les surveillants sont là pour surveiller, mais on sait jamais. Ça a toujours été un peu négatif pour moi. Les activités mixtes, je comprends pas.
Est-ce que c'est pas plutôt un moyen justement de les réhabituer à se voir entre eux plutôt que de les isoler sur une longue durée?
Ben ça, comment ça s'appelle? Comme je viens d'arriver chez les femmes, donc je pourrais pas vous le dire. Je suis encore un peu jeune pour gérer les détenues filles, donc je peux pas vous le dire. Voilà.
Pourtant, c'est même parfois nécessaire. Par exemple, pour des situations particulières comme la crise sanitaire, les ateliers des Baumettes ont dû fournir rapidement des masques en tissu. Alors Frédéric Sianelli, responsable de ces ateliers, n'a pas tergiversé.
Ça a été naturel dès le début que ce soit mixte, cet atelier?
Alors, on ne s'est pas trop posé la question. Nous, ce qu'on a regardé, c'est surtout la compétence, hein, puisqu'on partait de zéro et il fallait répondre urgemment quand même à la demande ministérielle. Il s'avère que, par chance, nous avions un homme couturier de métier à l'extérieur.
Donc le fait qu'il y ait des hommes et des femmes dans la même pièce, ça
non,
n'a jamais posé de problème?
C'est pas une limite pour nous, à savoir que toutes les activités sont déjà mixtes, aussi bien les théâtres que les cours de langue français ou langue étrangère. Donc on ne s'est pas limité à ça. C'est autorisé par la loi, donc on ne s'en prive pas. Puis je trouve que c'est une ouverture hein, vers l'extérieur. Il n'y a plus d'établissement avec la ségrégation hometown. Hein. C'est une préparation à la sortie. Jusqu'à présent, on n'avait qu'un seul homme, puisque celui-là, on l'avait mis exprès au travail du fait de ses compétences. Aujourd'hui, alors, il a souhaité réintégrer un groupe d'hommes sur d'autres missions. Forcément, j'ai accédé à sa sollicitation, puisque pour un garçon, parfois, ils ont l'impression de ne pas avoir les mêmes conversations que les filles. Et puis, c'est un peu délicat aussi pour eux. Donc, à sa demande, je l'ai mis dans un groupe exclusivement d'hommes. Et le prochain sera aussi un homme à le remplacer, parce qu'il est aussi couturier, mais cette fois-ci en Roumanie.
Isabelle coud des masques aux côtés des hommes. Pour elle, c'est le travail avant tout.
Ça ne me dérange pas, je fais abstraction, c'est comme s'ils n'étaient pas là en fait. Moi je suis là pour travailler, je suis là pour faire les masques, pour envoyer le maximum parce qu'il faut qu'on en fasse au moins 300 par jour, voire 350.
Pour vous, il n'y a pas le temps de poser ces questions, il faut...
J'ai pas le temps, voilà, et puis de toute façon, même si on a le temps, je ne regarde pas parce que premièrement, ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, On est là pour travailler, quoi. On n'est pas là pour se trouver un mari, ni pour discuter. Ou alors bonjour, oui, par politesse. Hein. Bonne journée, ça s'arrête là. Mais oui, après, je suis pour la mixité dans les ateliers, tout ça. Mais il faut quand même que la base, elle y soit, c'est-à-dire le respect. Que chacun reste à sa place, ça c'est très important. Et des fois, selon les filles, ça dérape un peu. Moi, personnellement, j'en ai pas connu, mais il suffit que vous répondez pas à leurs appels. Vous savez, bon, je vais pas vous faire un dessin. De suite, vous êtes... Bon, après, c'est ce que vous pouvez rencontrer à l'extérieur aussi. Hein. C'est pas que interne à l'incarcération. Hein. C'est malheureusement ce rapport de force qu'il y a toujours eu entre les hommes et les femmes. Et puis ici, c'est un petit peu plus... Le fait qu'on est enfermé, qu'il y a un petit peu plus de tension, de stress, de pression... d'angoisse, l'éloignement de la famille et tout ça, mais en fait on n'est pas là pour se faire des amis, on fait des connaissances, on fait avec les gens, mais voilà, c'est tout. Non, mais après ça se passe très bien quand on était en mixité, ça se passe bien, mais c'est toujours pareil. Après il faut, s'il n'y a pas de respect, on ne peut pas avoir un relationnel. Si vous avez le respect, il y a le relationnel. Voilà.
Le centre pénitentiaire des Baumettes affirme vouloir développer les activités et le travail mixte. Vu l'écrasante majorité des hommes en détention, c'est incontournable pour que les femmes ne soient plus lésées, selon Corinne Rostin.
On voit bien que c'est un système qui est un peu à bout de souffle, notamment parce que dans la société civile, nous sommes mixtes, les établissements scolaires sont mixtes, les hôpitaux sont mixtes. Donc on ne comprend pas bien pourquoi aujourd'hui un hôpital est mixte, on propose les mêmes soins aux femmes et aux hommes, et pourquoi on ne proposerait pas donc la même chose en prison. Donc bien sûr, on ne propose pas encore des cellules mixtes, même s'il y a des établissements qui peuvent le faire à l'étranger, mais au moins qu'on propose les mêmes activités et les mêmes traitements. Parce que aujourd'hui encore, on voit bien qu'on n'a pas les mêmes objectifs pour les femmes détenues, pour les hommes détenus. Fondamentalement, on n'a pas les mêmes.
Pendant que les chants brûlent, une reprise de Niagara par la chanteuse Brisa Rocher, invitée de Radio Baumettes. Les femmes en prison, en finir avec la double peine, un reportage de Laura Dulieu avec Laurent Macchietti à la technique et Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Invité de grand reportage, la sociologue Colline Cardy. Alors, vous avez entendu votre consoeur Corinne Rostin qui dit « On n'a pas les mêmes objectifs pour les femmes détenues que pour les hommes ». Vous êtes d'accord avec elle ?
Oui, je suis entièrement d'accord avec elle, puisque effectivement, alors que le code de procédure pénale suppose qu'il y a une égalité de traitement, il n'y a pas de différenciation des sexes, sauf autour de la question de la maternité et de la prise en charge des mères avec enfants en prison quand les enfants ont moins de 18 mois, il n'y a normalement pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes. De fait... à la fois historiquement et du fait de cette ségrégation entre les sexes, effectivement, on observe des différences de traitement. Là où je serais, je pense qu'il faut nuancer les choses, c'est qu'au fond, et c'est aussi ça que dit ce reportage de manière très fine, c'est que il y a plein d'ambivalences. C'est-à-dire, ce qu'on peut dire nettement, c'est défavorable à l'égard des femmes. C'est à mon avis un peu plus compliqué que ça, parce que vont se répercuter en prison tout un tas de normes de genre, notamment, on le voit bien, hein, qui fait que, à la fois, effectivement, les femmes vont être les oubliées des politiques pénitentiaires, et que pour autant, sur un certain nombre de points, elles vont bénéficier de conditions parfois qu'on pourrait appeler plus favorables, ou en tout cas différentes. Voilà, ça fabrique de la différence, et c'est ça qui est important à analyser, il me semble.
Alors, dans certains cas, des conditions plus favorables, notamment pour les mères.
Oui, alors là, c'est effectivement le lieu où on peut dire qu'il y a une forme de pénalité douce. C'est-à-dire qu'effectivement, l'administration pénitentiaire est très embêtée avec ces mères qui sont mères d'un jeune enfant ou qui tombent enceintes ou qui arrivent enceintes en prison. Et là, il y a un dispositif spécifique qui leur est réservé, qui n'existe pas dans tous les quartiers pour femmes, avec des conditions carcérales qui sont extrêmement différentes là aussi sur le territoire national. Mais ces quartiers mères-enfants prisons ou ces nurseries, ça fonctionne un peu comme une vitrine pénitentiaire pour l'administration pénitentiaire, puisqu'il faut bien montrer que cet enfant, qui est très problématique parce qu'il n'a pas d'existence pénale, hein, cet enfant, il n'a pas, il n'est pas condamné pour un acte jugé illégal.
Il n'est pas censé être enfermé.
Il n'est pas censé être enfermé. Alors là aussi, il y a une histoire de ce dispositif où on a essayé de légitimer le fait qu'il fallait que l'enfant reste avec sa mère, et notamment les psychologues et notamment Dolto, hein, dans les années 80, ont participé au débat de savoir s'il fallait que les enfants restent avec leur mère en détention. Mais en tout cas, effectivement, aujourd'hui, les enfants peuvent rester jusqu'à leurs 18 mois avec leur mère en prison. Et donc, on a construit des dispositifs un peu spécifiques. Celui de Fleury est celui qui est toujours mis en avant et qui est intéressant, effectivement, parce que on sort d'une prison telle qu'elle est traditionnellement conçue et pensée, hein, c'est-à-dire que il y a plus d'uniforme de surveillance, il y a des horaires adaptés, les femmes peuvent sortir de leur cellule toute la journée avec l'enfant, il y a des odeurs qui vont être différentes puisqu'effectivement on prépare à manger pour les enfants, il y a des bruits qui sont plus les mêmes, on va gommer un certain nombre de traits liés au carcéral pour protéger ces enfants et ces mères d'une forme de stigmate carcéral qui effectivement est problématique pour l'administration pénitentiaire. Et donc dans ces espaces-là, on peut dire effectivement qu'il y a des conditions de détention qui sont plus favorables, parce que les détenus perçoivent très très bien. Je me souviens d'une détenue qui me disait « on est passé voir la prison et évidemment on est allé voir la nurserie et on n'a pas parlé des suicides ».
Alors, des femmes privilégiées parce qu'elles sont mères, sauf dans certains cas, puisque j'avais lu, je crois que c'était vous d'ailleurs, qui vous le souligniez dans un écrit, le cas d'une femme enceinte à qui la juge d'application des peines a refusé une libération conditionnelle parce qu'elle se disait qu'il valait mieux qu'elle reste en prison pour que cet enfant naisse dans de bonnes conditions, c'est ça ?
Voilà, c'est ça qui est aussi très intéressant dans ces espaces-là, c'est qu'on a des conditions qui sont a priori plus favorables, mais où va se mettre en place une forme de contrôle social très serré de la manière dont ces femmes peuvent être mères, et être ou pas de bonnes mères, ou de suffisamment bonnes mères, si on reprend des termes plus psychologisants. Et donc, effectivement, c'est là aussi qu'on va construire une population à risque. C'est-à-dire, à la fois, il y a tout un travail qui est très différent mis en place avec ces femmes, qui peut relever du care, du soin, de la sollicitude. On va leur apprendre aussi à être des mères, et ça, c'est intéressant, parce que on n'est pas trop dans l'idée qu'elles sauraient faire par instinct maternel. Il y a vraiment un travail d'apprentissage de la maternité, qui est d'ailleurs pensé comme un moyen de réinsertion. Mais pour autant, celles qui vont être défaillantes au regard de ces normes-là, effectivement, vont être aussi sanctionnées. Alors pas forcément, là elle l'est au plan pénal, puisqu'elle ne peut pas sortir. Et pour d'autres, elles vont pouvoir sortir, mais il y a d'autres types de prise en charge et de sanctions qui vont se mettre en place à l'extérieur.
Et alors il faut quand même souligner que moins de la moitié des femmes déclarent un enfant à charge à leur entrée en prison. Hein. Toutes ne sont pas des mères.
Absolument.
Et il y a une inégalité des femmes entre elles dans la prison, entre voilà. Les mères et les non-mères.
Alors, il y a une inégalité d'abord très forte entre les hommes et les femmes. Et s'il y a un point où les femmes sont plus favorisées, si on reprend ces termes-là, je suis pas sûre que ce soit les bons, mais que les hommes, c'est cette question de la maternité. Il y a cette idée qui traverse à la fois la criminologie et les discours autour de la prison et des prisons de femmes. C'est cette idée que les femmes détenues sont avant tout mères. Ce qui est faux, puisque effectivement, les statistiques montrent qu'elles sont 40% à déclarer un enfant à charge, 30 à 35% chez les hommes. Donc la différence n'est pas si nette. On est sur des publics qui sont très jeunes, hein, il faut le rappeler. Mais pour autant, parce qu'il y a cette idée, on met beaucoup plus en place, et il y a un des surveillants qui le dit très justement, on met beaucoup plus en place pour les femmes tout ce qui relève du maintien des relations familiales, etc. Notamment au regard de l'enfant. C'est ce surveillant qui dit, au fond, les femmes, elles font à l'intérieur le travail qu'elles font aussi à l'extérieur.
Elles ont la charge mentale, voilà. Y compris en prison.
Et de fait, l'administration pénitentiaire accompagne ça. Donc reproduit d'une certaine manière cette forme de division sexuée du travail. Donc il y a des différences hommes-femmes, mais il y a effectivement des différences entre les femmes, et ça c'est toujours important de le rappeler, hein. Toutes les femmes ne sont pas traitées de la même manière par la justice et en prison. Et effectivement, ce qui va faire la différence, c'est leur rapport aux normes de la bonne mère, d'une certaine manière. Donc il y a des différences entre celles qui sont mères et celles qui ne sont pas. Quand est-ce qu'elles sont mères, puisque toutes les mères ne sont pas incarcérées dans les quartiers mères-enfants. Et puis, pour celles qui sont mères, entre celles qui sont de bonnes et de mauvaises mères. Et donc, effectivement, la maternité est un lieu qui cristallise très très fort les inégalités entre les hommes et les femmes, et entre les femmes elles-mêmes.
Inégalités aussi selon les établissements. Laura, vous êtes allée dans un établissement
modèle, on peut dire, à Marseille, alors qu'il y a une très grande diversité d'un établissement à l'autre.
Oui, absolument. Oui, c'est un établissement qui a 3 ans, qui est vraiment neuf. C'est même pas une rénovation. C'est vraiment les bâtiments sont sortis de terre et les anciennes baumettes vont être détruites normalement. Ça a bougé avec la crise sanitaire, mais vont être détruits prochainement. Et il y aura un troisième bâtiment, les Baumettes 3, qui seront construits là-dessus encore. Donc, voilà, il y a la prison de Rennes aussi, qui est relativement récente, et la maison de Versailles, et la maison d'arrêt de Versailles, qui paraissent être des endroits un petit peu privilégiés, un petit peu à part, mais c'est vrai que d'habitude, ce sont les femmes qui sont reléguées dans un quartier au sein d'un établissement pour hommes.
Et vous parliez de relégation, mais c'est aussi la relégation géographique, hein, parce que Colline Cardy, beaucoup de femmes se retrouvent emprisonnées très loin de chez elles.
Absolument, et Corinne Rostin a raison de pointer tous ces éléments-là, c'est-à-dire qu'effectivement, cette ségrégation sexuée, elle entraîne le fait que, c'est important de le rappeler, qu'elles ont moins accès aux formations, qu'elles sont beaucoup plus isolées que les hommes. Alors ça tient effectivement à cette question géographique, hein, puisqu'il n'y a que 55 établissements en France qui peuvent accueillir des femmes, avec un nombre de places extrêmement variable. Mais ça fait effectivement que les femmes sont très souvent éloignées de leur lieu d'habitation d'origine, et donc de leur famille aussi en général, en même temps qu'elles sont isolées du fait que le stigmate qui est apposé sur la situation des femmes incarcérées, c'est ce que disent ces jeunes filles, hein. Un mec c'est normal, moi je dirais sûrement pas que j'ai été aux Baumettes, et effectivement c'est très fort ça, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une forme de normalisation de l'expérience carcérale dans certains milieux pour les hommes, là où pour les femmes ça reste encore extrêmement compliqué. Elles transgressent à la fois des normes légales, hein, mais aussi des normes de genre, c'est-à-dire qu'on les attend pas là, et donc elles sortent et elles disent pas. Mais elles, effectivement, ce qu'il y a derrière aussi, c'est que elles sont isolées très fort parce que les hommes les quittent, les familles les laissent parce qu'effectivement elles sont devenues un poids et une source de honte pour ces familles. Et donc elles sont extrêmement isolées à la fois de toutes ces normes de genre et effectivement de cette question de la situation géographique qui fait que cette CIP, elle vous dit ben voilà, là il faut que je trouve un projet de sortie pour cette femme qui habite en fait très loin. Et donc c'est extrêmement compliqué effectivement pour elle après d'entamer un travail de réinsertion.
Elles sont souvent effectivement abandonnées par leurs conjoints, alors que à l'inverse, on voit énormément de femmes de détenues qui font des trajets incroyables.
Il suffit de prendre le car ou le RER qui va à Fleury-Mérogis pour se rendre compte effectivement de tout ce travail des mères, des épouses, des sœurs qui vont rendre visite aux détenues et qui vont assurer effectivement la charge familiale, la charge scolaire, la charge financière très souvent, et tout ce travail de soins, hein, qu'elle prodigue aux détenus qui sont restés entre les murs.
Est-ce que vous vous retrouvez dans l'image de la détenue, dans le portrait brossé par la conseillère d'insertion, les surveillantes? Est-ce que ça correspond à ce que vous-même vous avez observé en allant voir des femmes en prison?
Alors en fait, il y a effectivement, je vous dirais pas que moi j'ai observé ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré des femmes qui pouvaient correspondre en partie à ce portrait-là, j'en ai rencontré d'autres qui ne correspondaient absolument pas, et c'est peut-être une grande majorité des femmes détenues, hein, qui sont, il faut le rappeler, incarcérées pour les mêmes raisons que les hommes, c'est-à-dire des petits délits, et très souvent en situation d'être encore non jugée, hein, donc on est sur une population qui est relativement similaire en termes de caractéristiques pénales. Le discours effectivement qui gouverne très souvent la manière dont se représentent, dont les acteurs de l'administration et les actrices de l'administration pénitentiaire peuvent se représenter les détenus, c'est cette idée effectivement qu'elles sont moins dangereuses, qu'elles sont plus sensibles. Donc elle supporterait moins bien l'institution carcérale et les conditions carcérales, et qu'elle serait plus demandeuse. Effectivement, il y a un besoin psychologique comme ça qui est beaucoup mis en avant. C'est cette conseillère d'insertion qui dit ben un dossier de femme, ça vaut 3 dossiers d'hommes. Et donc elle chronophage, c'est les femmes.
Oui, mais courageuse.
Moi, j'ai rencontré de tout, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes entretiens, et les entretiens, quand on est sociologue en prison, rejouent en partie aussi, pour un tas de raisons, les entretiens que les femmes peuvent avoir avec l'administration pénitentiaire, même si avec certaines, la relation de confiance fait qu'au bout d'un moment, on sort un peu d'un discours qui, de toute façon, oblige à la mise en récit, que ce soit devant la sociologue ou devant l'institution judiciaire, donc c'est compliqué pour nous, mais en tout cas, si je regarde le parcours de ces femmes et le rapport qu'elles peuvent avoir à la parole. Certaines, effectivement, étaient très demandeuses de parler. et je pouvais être considérée comme une visiteuse de prison. D'autres n'avaient pas du tout envie de parler et étaient plutôt dans une affirmation de valeur très masculine et une forme même de virilisme, ce qui pouvait leur être reproché en prison, hein, puisque on va demander aux femmes en prison d'être plutôt féminines, jamais trop. Mais c'est ce qu'on fait quand on fait des ateliers d'esthétique.
Bah là, il y avait le salon de coiffure.
Absolument. Puis ces jeunes femmes qui rentrent un peu masculines, mais qui vont sortir, et tout va bien, l'ordre du genre est rétabli, plus féminine.
Et alors, est-ce que c'est vrai que les femmes se conforment à ce qu'on attend d'elles et mettent plus à profit le temps d'incarcération ?
Alors là aussi, il faut faire des distinctions entre les femmes. C'est-à-dire, on n'est pas du tout sur une population homogène, même s'il y a des choses qui les réunissent en termes un peu de parcours social. Mais quand même, on est sur des choses assez différentes. Donc, j'aurais du mal à vous dire oui de manière générale. Ce qui est sûr, c'est que comme il y a un travail psychologique qui est davantage mis en place à l'égard des femmes, justement parce que il y a cette idée qu'elles seraient plus réflexives, plus demandeuses, etc. Sans doute que on peut dire que voilà qu'elles, en tout cas, il y a une réflexion autour de la peine, sans doute, qui est un peu différente aussi parce que justement du fait du stigmate. Pour autant, enfin voilà, un autre élément qui me semble intéressant, et c'est là où les questions de mixité sont problématiques. C'est-à-dire, effectivement, cette mixité volontaire, elle rentre en prison. Ce que montrent certaines études sur la prison, c'est que l'entre-soi féminin permet à certaines femmes de faire une pause, notamment quand elles ont été victimes de violences sexuelles et de rapports aux hommes qui ont pu être conflictuels. Et bien, pour ces femmes, à certains moments donnés, c'est un moyen de se retrouver et de couper avec ces violences-là. Et donc, effectivement, certaines, mais pas toutes, en plus, enfin, c'est vrai pour les longues peines, enfin, pour des peines qui sont... Là, on est sur des... La prison, ça rentre et ça sort en permanence, hein, donc on est sur des temps courts, en fait, souvent d'incarcération. Pour les femmes, on est sur des temps un peu plus longs parce qu'en fait, elles échappent en amont à l'incarcération. On hésite davantage à envoyer une femme en prison. Donc, pour certaines, effectivement, c'est un temps qui est possible de réflexion, de subjectivation, et l'administration pénitentiaire est aussi un lieu où on va davantage demander aux femmes d'être dans cette forme de subjectivation.
Alors cette non-mixité, d'ailleurs, alors qui remonte au 19e siècle, ouais. Hein, à l'époque c'était justement perçu comme une amélioration, c'était pour les protéger les femmes, c'est ça ?
Oui, complètement. C'est-à-dire, effectivement, c'est ce que Corinne Rostin rappelait, c'est cette idée que, effectivement, il y avait eu des abus sexuels des femmes détenues qui ont été enceintes, mises enceintes. On voit, le terme est pas terrible, mais enfin bref, et qu'effectivement, il a fallu les protéger. Alors, on peut voir ça comme ça. C'est aussi un moment où la prison réfléchit sur elle-même. C'est aussi un moment où la distinction entre les sexes, le 19e siècle, commence à se faire. À être très importante pour l'ordre social. C'est-à-dire, c'est ce moment, 18e, 19e siècle, ce que montrent les historiennes, où on va renvoyer les femmes à la maison, dans l'espace privé. On va construire cette distinction très forte entre l'espace privé et l'espace public. Et où, au fond, alors que les femmes, elles pouvaient être condamnées, hein, elles ont été beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui en prison, elles ont représenté jusqu'à 20% de la population carcérale. Donc, il y a une chute historique au moment même où se met en place la non-mixité aussi. Hein, et où ça devient bizarre pour une femme d'être incarcérée. Jusque-là, elles ont quand même participé aux émeutes, etc. Elles ont été présentes aussi hein, dans des actes de délinquance. Tout d'un coup, là, à partir du moment où on sépare le privé et le public, là, à partir du moment où on va alléguer aux femmes le travail domestique, notamment, et le travail parental, eh ben, effectivement, à ce moment-là, on commence à réfléchir sur cette question qu'il faudrait protéger les femmes à l'intérieur de la prison, etc. Et donc là, il y a aussi ces effets-là. Et donc, c'est très important d'en repasser par l'histoire pour dénaturaliser cette idée, d'une part, que les femmes seraient moins délinquantes par nature que les hommes, et d'autre part, que cette ségrégation sexuée, qui aujourd'hui pose question pour tout un tas de raisons, pour y revenir, irait de soi, finalement.
Mais donc aujourd'hui, on est au 21e siècle, dans une société mixte, et c'est là que ça paraît un petit peu bizarre, cette non-mixité absolue dans la prison. Mais c'est une question hein, qui taraude aujourd'hui l'administration pénitentiaire. Ils sont conscients qu'il y a des choses à faire dans ce domaine.
Tout à fait. Alors en plus, il y a des pays qui font un peu différemment, mais il y a plein de questions. Enfin, elle est traversée par cette question-là parce que la société est traversée par cette question-là, parce qu'il y a eu un processus de mixité de tout un tas d'institutions. Alors l'école, mais la police aussi, l'armée, hein, sont des espaces qui jusque-là étaient des bastions virils et dans lesquels les femmes ont fini par rentrer. Alors de manière relative, mais enfin elles y sont. Et donc pourquoi pas les prisons, ont été plutôt pensées effectivement pour les hommes. En même temps qu'il y a cette idée qui traverse aussi le corps social, qui est la mixité, c'est important, et avec une vision très complémentariste des sexes, hein, cette idée que il faut mettre ensemble les hommes et les femmes parce qu'on est différents et qu'on s'apporte des choses les uns les autres, etc. Donc on rejoue une vision très binaire. Et puis il y a cette question qui traverse aussi l'administration pénitentiaire, qui est celle de la transsexualité, où tout d'un coup on est face à des individus qui naissent hommes ou femmes et puis qui vont vouloir changer de sexe ou qui se sentent d'un autre sexe.
Alors justement, là aujourd'hui, puisque donc les femmes sont minoritaires, on voit que c'est déjà pas très simple pour elles, comment ça se passe aujourd'hui pour une personne transsexuelle ou intersexe?
Alors on a peu de données, hein, et donc avec Corinne Rostin, on travaille justement sur cette question de la mixité, donc on pourra vous en parler davantage dans
quelques
dans
temps.
Deux ans. Ouais. La recherche prend du temps. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces situations-là viennent justement questionner cette bicatégorisation si forte. C'est-à-dire, d'un côté, il y aurait des hommes et de l'autre, il y a des femmes. Et en fait, voilà, ici, il y a un trouble. Ce qui est sûr, c'est que ce que l'administration pénitentiaire a en tête, là où ça devient problématique, c'est notamment pour les hommes qui veulent devenir femmes. Et où là, il y a cette peur très forte qu'ils subiraient des violences. Et donc à Fleury, par exemple,
en restant chez les hommes.
En restant chez les hommes, oui. Donc on les met chez les hommes à Fleury, à part, par exemple. Ils ont une petite cour, enfin de ce que dit l'administration pénitentiaire, une cour des cellules déplafonnées qui servent de cour. Donc on protège très fort. Et là, il y a encore un autre enjeu qui est de non seulement les hommes ne doivent pas croiser les femmes, mais ces personnes transsexuelles ne doivent pas croiser les hommes. Chez les femmes, on se pose peu la question. Il n'y a pas cette idée qu'elle pourrait être victime de violence. Et puis, mais il y a des lieux assez particuliers comme la maison d'arrêt, enfin la prison de Caen, par exemple, où la carte d'identité en prison peut mentionner un changement de sexe, hein, puisque quand on rentre en prison, on a aussi une carte d'identité spécifique à la prison. Et là, il y a acceptation d'un changement de sexe. Donc c'est intéressant parce qu'à la fois il y a des résistances très fortes et en même temps c'est quand même des lieux d'expérimentation intéressants.
Et donc, vous l'évoquiez, vous avez effectivement une recherche en cours. Donc là, vous avez répondu à un appel à projet de l'administration pénitentiaire ?
Non, du GIP, du Groupement Intérêt Prison, qui est du GIP Justice. Groupement d'intérêt public, pardon, prison. Justice, oh là là. Qui appelait effectivement à ce que des recherches sur la mixité en prison se mettent en place. Donc il y a effectivement bien ce souci de réfléchir à la manière et aux modalités et aux modes de résistance par rapport à cette mixité.
La question étant, quels sont les espaces qui doivent être mixtes? Quels sont les moments où on peut introduire de la mixité?
Alors, est-ce qu'on fera des préconisations? J'en sais rien. En tout cas, c'est d'essayer de comprendre où on en est de l'état de cette question-là. Comment elle a émergé? Comment elle se met ou elle se met pas en place? Quels sont les lieux de résistance? Que ce soit la mixité des personnels ou des détenus? Et je pense que ce sera intéressant d'avoir le point de vue des détenus aussi. Cette femme, elle est intéressante, là, quand elle vous dit... au fond, ça me dérange pas, je suis pas là pour chercher un mari, mais il faut du respect. Et donc c'est intéressant parce qu'à la fois elle a bien saisi que l'angoisse quand même, enfin l'inquiétude de l'administration pénitentiaire, c'est la sexualisation au fond des relations. Et c'est ça beaucoup qui se joue dans cette affaire, c'est-à-dire cette idée que d'un côté on aurait des hommes qui n'ont qu'une envie, c'est de sauter sur des femmes parce qu'en plus ils sont privés des relations sexuelles que par ailleurs ils auraient beaucoup plus que les femmes. Et puis deux femmes qui sont en plus aussi aguicheuses. Donc dans les deux cas, on a des normes, des stéréotypes de genre très forts. Et puis voilà, elle dit, bah en fait ça se passe. Et tout ce qu'on vous dit, c'est ça se passe bien. Alors ce qui est intéressant, c'est que les activités qui sont proposées sont pas des activités où le corps est a priori mis en jeu justement. Hein. C'est la radio, la bibliothèque, le Ah, le théâtre quand même. Faudrait voir comment ça se, quand ça se passe. Mais en tout cas, ce qu'elle dit aussi, hein, c'est effectivement, comme à l'extérieur, on peut être victime de violences sexuelles. Et donc, c'est important aussi d'entendre ça, il me semble, c'est que, encore une fois, voilà, qu'est-ce que la non-mixité peut produire? Les féministes, elles ont dit plein de choses autour de ça dans les années 70. Et elles continuent à dire des choses qui me semblent importantes sur ce que peut produire la non-mixité aussi, dans certains espaces et à certains moments.
Et c'est la mixité qui serait facteur d'égalité femmes-hommes, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de promouvoir l'égalité?
Je suis pas certaine que seulement la mixité puisse promouvoir l'égalité. C'est-à-dire les travaux sur l'école, par exemple, montrent bien comment les cours d'école sont pourtant des lieux où se reproduisent des différenciations, des formes très inégalitaires de rapports sociaux. Donc voilà, je sais pas si c'est par la mixité uniquement que ces choses-là peuvent advenir. Je pense qu'il y a une réflexion. Et alors, la prison, elle a des spécificités et en même temps, elle fait partie du monde social. Et donc, il y a sans doute un travail plus large à mener autour de ces questions-là. Même si, voilà, c'est une étape sans doute nécessaire, ou des moments nécessaires à l'intérieur d'une prison. En tout cas, c'est effectivement un moyen de rappeler que les femmes sont les oubliées des politiques pénitentiaires. Et ça, c'est un lieu d'inégalité très fort.
Merci Colline Cardy. Les femmes en prison, en finir avec la double peine. Le grand reportage de cette semaine était signé Laura Dulieu avec Laurent Macchietti. Réalisation Annie Bro avec Nasser Moussaoui à la technique. Merci à l'équipe de la documentation de Radio France. Vous pouvez écouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.